Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Academy. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous présenter, comme à l'accoutumée, le numéro du mois de juin de la Revue des Deux Mondes. Et j'ai envie de dire, vous faites comme Nicolas Sarkozy, vous repartez à la conquête de l'Europe dans ce numéro.
Oui, conquête, en entendant le mot comme, au fond, dans son acception voyageuse et non pas guerrière. Il s'agit plutôt de savoir ou de recommencer à savoir voyager en Europe. Et l'occasion en a été fournie par l'inauguration de cette ligne TGV Paris-Strasbourg qui nous met maintenant à 2h20 exactement de cette ville qui elle-même nous met à 2h de toutes les grandes capitales de l'ancienne Europe de l'Est, Europe centrale, Prague, Budapest. Et il m'a semblé que c'était un événement non négligeable où la technique, la culture et l'histoire vont de concert.
Alors, le numéro s'appelle « Alsace, porte de l'Europe centrale ». Il s'agit d'un dossier réalisé en association avec le Forum Carolus, c'est ça ?
Oui.
C'est bien cela ? Et avec le RFF, le Réseau Ferré de France.
Voilà, avec le soutien du Réseau Ferré français qui... en effet, a été intéressé par cette initiative et en collaboration avec le Forum Carolus à Strasbourg, qui est une sorte, comme on dit maintenant, de think tank, plus exactement d'usine à gaz, qui se donne pour but de réfléchir sur toutes les questions de type européenne, économique, culturelle ou politique.
Alors vous le dites dans votre éditorial, il n'y a aucune, j'allais dire, tentation régionaliste dans le...
Pas du tout, non, au contraire question. Même. C'est justement, c'est le moment ou jamais de sortir du régionalisme. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai été séduit par ce projet qui m'a été proposé il y a un peu plus d'un an, justement, par Henri de Grossouf, qui dirige ce Forum Carolus à Strasbourg. Et oui, j'y ai vu absolument l'occasion, justement, je dirais même de tourner le dos à une tentation régionaliste qui n'aurait aucun sens dans l'espace de la Revue des Deux Mondes, mais au contraire de l'occasion de s'approprier ou de se réapproprier une géographie européenne. Or, cette géographie n'est pas abstraite, elle est concrète, elle passe par des villes, elle passe par des lieux. Et l'Alsace en est un lieu particulièrement chargé d'histoire. Et par conséquent, cette connexion avec l'Europe centrale m'apparaissait comme une possibilité de sortir de la logique régionaliste, qui est toujours auto-centrée.
Alors, vous parlez d'Europe centrale. Il y a un terme qui est utilisé dans la Revue des Deux Mondes, qui est un terme consacré dans l'histoire et les études géopolitiques. C'est le terme de Mitteleuropa. Un terme, d'ailleurs, qu'Henri de Grossouf préfère à celui d'Europe de l'Est, qui, lui, renvoie à la guerre froide.
Bien sûr, c'est même fondamentalement différent. Parler d'Europe de l'Est, c'est rester dans un vocabulaire soviétique, ou disons un vocabulaire de la guerre froide, comme vous dites. Alors, nous n'y sommes plus, malgré là les récentes déclarations russes, mais Mitteleuropa, bien sûr, recouvre une vérité bien plus profonde de l'histoire européenne, et elle désigne non pas un camp idéologique, mais un ensemble qui certainement est cimenté par un dénominateur culturel commun, je crois fondamentalement, même si cette question de l'identité européenne est loin d'être simple à définir. Je pense qu'il y a entre Budapest, Prague, Vienne, Strasbourg, et je pourrais citer d'autres villes, il y a un dénominateur commun, et ce dénominateur passe par la culture, il passe par l'architecture notamment. Ce sont des architectes italiens qui ont construit Prague, comme les mêmes qui ont construit Pétersbourg. Pétersbourg me paraît, on peut aussi penser à Pétersbourg quand on pense Mitteleuropa. Et donc, Bien sûr, cette mythe de l'Europe, pas depuis la chute du mur et comme par hasard, justement, depuis la fin de la guerre froide, retrouve naturellement une signification.
Alors, je cite les pays hein, qui ont intégré l'Union européenne, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. Enfin, il y a la Bulgarie et la Roumanie. C'est un ensemble gigantesque, un ensemble sur lequel revient Jacques Le Rieder hein, dans une interview qui développe tout ce concept de Mitteleuropa. On parle en France beaucoup de la crise européenne avec précisément un regard franco-français qui oublie qu'il y a également ce défi que représente cette Mitteleuropa qui, elle, a sa propre spécificité.
Oui, vous savez, en France, il y a une sorte d'inculture, je dirais même quelque chose d'analphabète par rapport à la Mitteleuropa dont on parle, une ignorance, une incapacité à concevoir que précisément Prague est plus près de Paris que Vienne. En kilomètres, si on continue de considérer la géographie comme une échelle de mesure, on est plus près à Paris de Prague que nous sommes de Vienne. Et que cela reste encore une terra incognita pour beaucoup de Français, je ne peux que le désoler. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je choisis, dans la Revue des Deux Mondes, d'insister précisément sur cette réalité. Parce que même s'il y a une spécificité, comme vous dites, encore qu'il faudrait aussi là bien s'entendre, il y a évidemment, toutes sortes de passerelles, toutes sortes de passages, toutes sortes de connivences, d'affinités profondes. Et je me souviens. C'est un exemple pour moi qui reste symbolique, emblématique, d'avoir été dans une librairie de Bucarest, donc là nous sommes en Roumanie encore, et d'avoir trouvé dans une vieille librairie d'occasion de Bucarest, juste après la chute de
Ceausescu,
d'y avoir découvert des vieux cahiers de la NRF des années 20, Léopold Fargue et autres, Larbeau, Dubos, qui naturellement étaient là parce qu'ils avaient fait le voyage et que de Bucarest à Paris, il y avait cette émulation intellectuelle, esthétique. Et aujourd'hui, le moment est venu de remettre en circulation tout ce vaste jeu d'affinités.
Il existe tout de même une incompréhension, parce que d'un côté, les Français, et j'allais dire les Espagnols, les pays latins, considèrent que l'Europe penche à l'ouest, alors que cette Europe, cette Mitteleuropa, existe bel et bien. Et cette Mitteleuropa, elle, voit l'Europe comme une question un peu secondaire par rapport au marché mondial.
Oui, c'est d'ailleurs un paradoxe assez savoureux, parce que en effet... À Prague ou à Budapest, on est certainement, du fait même de l'expérience des années de totalitarisme, on est évidemment assez logiquement sceptique sur l'Europe. On parle d'eurosceptique. Il y a un certain scepticisme et en tout cas un désir de grand large et un désir d'ouvrir en effet les relations et donc évidemment de renouer des liens du côté atlantique, tout ça se comprend parfaitement, enfin, même si je pense que ça se relativisera avec le temps. Mais en effet, les sociétés d'Europe centrale, aujourd'hui, sont peut-être plus portées à une concorde, un esprit de concorde avec l'Atlantique, avec les États-Unis, que les Européens de l'Ouest, français, allemands. Je ne parle pas des Anglais, c'est encore différent, mais qui sont évidemment dans un autre rapport. Mais l'histoire, là non plus, n'est pas la même.
Alors, reconnaître. Je renvoie nos auditeurs à ce dossier Alsace, porte de l'Europe centrale, à ses nombreux articles. Hein. Il y a 10 articles sur la question, notamment sur le Rhin, qui a une place centrale sur ces liens entre l'Est et l'Ouest. Je passe, si vous le voulez bien, Michel, à un article capital, très important, un voyage, celui d'Adrien Jaulme, dans un univers assez spécial qu'il appelle l'Amérac, qui est l'Amérique en Irak, je le cite, l'étrange pays virtuel créé par l'armée américaine dans ses bases irakiennes.
Oui, je suis très heureux de publier dans ce numéro de la revue un reportage d'Adrien Jaulme, qui est grand reporter pour le Figaro, et qui m'a proposé ce reportage qu'il a fait à Bagdad, au cœur même de l'enclave américaine, qui est une sorte de, comme il l'appelle, l'Amérac, et où il a vécu au milieu des soldats américains qui vivent dans un monde évidemment complètement, comme vous venez de le dire, irréel et tragiquement concret. Donc c'était une occasion là aussi d'avoir un regard concret sur cette réalité de la guerre en Irak à laquelle nous nous sommes habitués maintenant aux informations du soir. Nous avons régulièrement le chiffre de morts de la journée à Bagdad comme on a la température qu'il fait à Bordeaux. On a les morts de Bagdad. Là, on a une vue singulièrement sidérante, enfin hallucinante. Et donc, c'était bien sûr l'occasion de le faire savoir, de le donner, de le porter à la connaissance des lecteurs.
C'est un regard concret, hein, vous venez de le dire, et très complet. Il aborde tous les aspects sociologiques, politiques de cette occupation.
Oui, absolument. Et pas de considération géopolitique, là, mais au contraire, une attention au quotidien, comment on mange, comment on dort.
Les relations qu'entretiennent les soldats entre eux.
Les relations, bien sûr.
Le rôle de la femme.
Absolument, bien entendu. Tous les domaines de la vie sont considérés. Et je crois que c'est très important aussi de mesurer cela, presque physiquement. Enfin.
Le grand absent, vous le dites, c'est la question géopolitique.
Bah,
et pourtant, on la sent derrière.
Oui.
On la sent derrière, puisque finalement, à travers le regard du soldat, on voit si cette question politique est importante pour eux.
Oui, absolument. Le grand absent, c'est tout simplement, non pas que Adrien Jules soit refusé, mais c'est parce que un reportage est un reportage. Et donc, laissons aux professeurs et aux commentateurs le soin tout légitime de faire leurs commentaires et leurs leçons. Mais là, en effet, oui, il y a bien sûr une solitude perceptible à la lecture de ce reportage du jeune soldat américain de 20 ans qui est là, qui est embarqué dans une affaire dont on ne voit pas le bout. Et je crois que c'est là aussi important de le mesurer, enfin, d'en avoir une appréhension qui ne soit pas simplement statistique ou enfermée dans le vocabulaire de la géopolitique.
Alors, j'en viens à un dernier sujet, peut-être. L'ombre de la présidentielle s'estompe peu à peu. Vous y revenez, hein, notamment dans votre éditorial, notamment dans votre journal littéraire de François Bayrou. Vous dites à la fin du sabre qui a servi à conquérir 7 millions de voix, il y a du sable.
Oui, oui, je crois que c'est en effet ce que l'on constate, mais l'intéressé doit sûrement avoir son idée sur la question. Mais en effet, oui, je crois que c'est le sentiment, en tout cas, que j'ai ressenti, moi, en suivant cette campagne et les résultats et les péripéties qui l'ont suivi, d'avoir eu ce sentiment que l'épopée de Bayrou, qui a frappé beaucoup pendant la campagne, se trouve maintenant devant des enjeux qui, évidemment, ne peuvent pas se satisfaire, de se contenter d'une simple récusation des blocs ou d'une récusation du monolithisme. Je crois qu'il y a d'autres choses à apporter. J'allais dire, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de M. Bayrou. Mais je pense que c'est aussi une, je ne dirais pas une malédiction, mais une sorte de problème consubstantiel au centre en France, d'être à la fois bon, d'avoir une présence, et puis en même temps d'éprouver cette difficulté à exister, à durer, à se donner un corps, une consistance. Bon,
alors, il y a deux grands vainqueurs, hein, dans cette élection. Le premier vainqueur, il s'agit de la politique, hein, vous en aviez déjà parlé dans les précédents numéros. Et il y a bien évidemment Nicolas Sarkozy. Vous écrivez, il est allé chercher la majorité silencieuse, il l'a prise à Jean-Marie Le Pen et il a gagné. S'il n'avait pas été capable de ce que d'aucuns se sont plus à décrire comme un hold-up, où en serions-nous avec Jean-Marie Le Pen aujourd'hui?
Oui, je pense que maintenant, bon, la question est de savoir, encore une fois, comment tout ça va se faire. Il ne s'agit pas de gagner, mais ensuite, après, il faut durer. Donc, je sais que Nicolas Sarkozy a cette coutume, comme il se plaît à le dire, d'accélérer après avoir foncé. Donc, très bien, nous allons voir. Mais oui, je pense qu'il a réussi là quelque chose, incontestablement, qui a apporté un renouvellement profond. Beaucoup de gens ont voté. Il suffit pas qu'on soit beaucoup à voter. Encore faut-il bien voter, entre guillemets. Et quand je dis cela, je veux dire que je considère que là, la grande bonne nouvelle, c'est ce déclin des extrêmes, à droite comme à gauche. Le Parti communiste, qui ne fait même pas 2%, quand on se souvient, quand on veut bien se souvenir de la place symbolique, et pas seulement symbolique, qu'occupait le Parti communiste dans la société française, c'est incroyable. Donc là, il y a une... Personnellement, je m'en réjouis, et tout comme je me réjouis profondément que Jean-Marie Le Pen, ce qu'il incarnait, ce qu'il incarne encore, soit revenu à des étiages plus bas qu'il n'était. Ça me paraît un bon signe.
Alors, je voudrais terminer par un petit clin d'œil, si vous me permettez, Michel Crépu. Je me suis attardé sur quelques lignes qui présentent finalement ce que vous jugez être le blog idéal. Qu'est-ce que le blog idéal, Michel Crépu?
Le blog idéal, c'est le blog qui résiste au bavardage. Et donc, c'est l'anti-blog. Parce que le blog, aujourd'hui, c'est un dépotoir à blabla. Tout le monde considère que le fait d'avoir été acheter 3 kilos de pommes chez son maraîcher mérite d'être dans le blog. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois au blog, mais qui est concentré, où on injecte des éléments précis d'information. Alors, moi, mon rayon, c'est la littérature. Et donc, oui, je me vois bien constituer un blog strictement comme ça, constitué d'extraits, de phrases, de numéros de pages, de noms d'auteurs, mais pas de commentaires, pas de bavardage, pas de blabla.
Eh bien, merci beaucoup Michel Crépu pour la présentation de ce numéro de juin 2007 de la Revue des Deux Mondes, Alsace, porte de l'Europe centrale. Nous nous retrouverons dans un mois pour un numéro consacré, vacances oblige, au voyage. Merci.
Merci à vous.
Et à très bientôt.